Radicaux Libres. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler cette semaine de la météo. Un épisode neigeux suivi d'un deuxième épisode neigeux. Ah, les épisodes neigeux ont eu lieu cette semaine. Cet épisode neigeux a fortement impacté la circulation. Et même le ministre libéral des transports, visé par une enquête du parquet national financier. Oui, ça vaut le coup de le dire quand même. Il est vrai qu'à chaque fois, ou presque, qu'on parle d'un ministre des gouvernements actuels, ils sont visés par des enquêtes. Pourquoi ? Eh bien, lui, c'est pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. Une histoire de famille, vous chercherez. Il s'appelle Tabarot. Eh bien, le ministre libéral des transports est intervenu dans les médias pour expliquer que ce serait bien si les employeurs laissaient le personnel exploité rentrer chez lui plus tôt. Même les libéraux disent que là, quand même, non, arrêtez de vous faire exploiter, allez faire un tour chez vous. Et comme à chaque fois que les réseaux de communication sont touchés par un phénomène naturel, la polémique a enflé. Oui, ainsi, on a pu entendre ça.
France Info, 9h30 midi, Hercine Lebovic.
Les chutes de neige étaient prévues, mais on ne s'attendait peut-être pas à ça. Alors qu'il est, il n'y a plus d'avis de vigilance orange sur la France. Précédemment, 26 départements ont connu ces avis de vigilance orange. Un nouvel épisode neigeux est attendu. Vous allez voir que les perturbations continuent. En revanche, on sera à La Rochelle, en Charente-Maritime, dans un instant. D'abord, les Yvelines avec vous, Benjamin Hilly et Benjamin Troncin pour les moyens techniques de France Info. Y a-t-il encore beaucoup de neige ce matin ?
Oui, il y a de la neige, vous avez raison, c'est joli, mais ça pose des problèmes. Nous avons roulé prudemment de Paris à Ville-d'Avray.
C'est dingue, non ? Le lendemain d'un épisode neigeux, puisque vous l'aurez compris, nous étions mardi matin, eh bien, alors que les températures étaient presque partout négatives, le lendemain, il y avait encore de la neige. Eh, mais surtout, cette petite phrase d'intro, vous en souvenez plus ? Bah, écoutez.
Les chutes de neige étaient prévues, mais on ne s'attendait peut-être pas à ça.
Non, on ne s'attendait peut-être pas à ça. Pourquoi ? Eh bien parce que ceux qui sont chargés de prévoir n'ont pas prévu. Alors à qui la faute ? Météo France ou les macronistes au pouvoir depuis 2017 qui ont réduit le budget et le personnel de Météo France ? Eh bien de fait, peu importe, car même avec des millions de milliards de dollars, d'euros, de dirhams, de ce que vous voulez, de budget et des centaines de milliers d'analystes, Météo France n'aurait pu nous donner au millimètre près la quantité de neige qui a tenu au sol un petit peu partout en France. Par cette polémique, les militants de la technique qui nous gouvernent nous font croire qu'il est possible de connaître le futur. Prétentieux, va. Et donc d'adapter nos sociétés pour qu'elles continuent à être totalement déconnectées des moyens naturels où elles évoluent, mais qu'elles continuent à produire de la richesse, du produit intérieur brut. Et les gens dans tout ça, eh bien, il a été demandé à des gens ce qui leur arrivait. Reportage dans les Yvelines, mardi matin. On est toujours sur France Info.
Honnêtement, c'est la galère, franchement. Ouais. C'est pas trop déneigé, honnêtement, c'est pas trop déneigé, ça patine.
Vous venez d'où ?
Je viens de Massy, dans le 91, et franchement, on peut mieux faire, on va dire. Ouais. Ouais, disons qu'ils ont pas salé, moi j'ai galéré pour sortir de ma place. Route principale, ça peut le faire, on va dire, mais il reste quand même encore beaucoup de neige. J'ai vu aucune déneigeuse, aucune saleuse, rien du tout, là, depuis ce matin qui tourne, en tout cas.
Du coup, vous avez roulé de quelle manière, ce matin ?
Ah bah, modéré, j'étais à 50 sur la 86, voie de droite et tout le monde me suivait quoi, maximum 70-80, max.
Voilà, et ça tombe bien, 80 km/h, c'est la vitesse maximale autorisée sur les routes d'Île-de-France ce matin. La préfecture a activé hier le niveau 3 du plan neige-verglas.
Eh oui, et là, faut réduire sa vitesse quand il y a de la neige. C'est dingue, non ? Alors, comment ça, faut réduire sa vitesse ? Dans un monde moderne, en 2026, il faudrait réduire sa vitesse. Alors que moi, ben, j'ai des trucs à faire. Mais depuis toujours, sous nos latitudes, la neige, le verglas, la bise qui est venue, oui, ont agrémenté l'hiver où les jours sont plus courts et les températures plus basses. Et voilà, ça risque d'être comme ça pour une éternité. Depuis toujours, les sociétés humaines n'avaient pas la même vie, les mêmes activités suivant les saisons. Ça, c'est depuis toujours, hein. Et puis est arrivée l'ère industrielle, celle où le travail humain est organisé par l'activité des machines. En 2 siècles, l'uniformisation des saisons a atteint des sommets. Été, automne, hiver, printemps, les journées de travail ont la même durée. Les exigences de présence sont les mêmes. Aussi, quand les routes sont encombrées par de la neige, le Pékin ne comprend plus que les autorités ne fassent pas quelque chose parce que lui doit être à l'heure sur son lieu d'exploitation ou veut rentrer le plus tôt possible chez lui. Et par exemple, celui que nous venons d'entendre nous dit « mais pas vu une déneigeuse, pas vu une saleuse, ils ont pas. Eh ouais, il faudrait que le lendemain matin, température négative, nanana, etc. Hein, on est en plein hiver, eh bien il faudrait qu'il n'y ait plus du tout de traces de cet épisode neigeux qui a eu lieu la veille au soir et même dans la nuit. Le Pékin ne comprend pas que des trains, des avions, des bus ne circulent pas alors que lui avait pris un rendez-vous à l'autre bout du monde, ou du département, ou de la ville. Nos sociétés techniciennes veulent s'affranchir des milieux naturels et nous faire turbiner par tous les temps. Ah ouais, par tous les temps et même tout le temps, hein, puisque je rappelle quand même que grâce à cette ère industrielle, il y a des gens qui produisent des pièces de véhicules automobiles en pleine nuit. Pourquoi ? Bah parce que les machines, elles peuvent tourner 24 heures sur 24. On a pu s'en rendre compte qu'ils voulaient nous faire turbiner toute l'année, tout le temps, nos soi-disant représentants de ces sociétés techniciennes. Parce que l'été dernier, par exemple, et en 2023, quand plusieurs personnes sont mortes au travail durant les canicules, on a pu se dire, oh, mais c'est pas normal. Ben, c'est peut-être pas normal de travailler alors qu'il y a de la canicule. Ah ben oui, mais il faut faire ses heures, etc., etc. Nos soi-disant représentants vont bien devoir le comprendre. Organiser nos vies pour réduire les humains à de simples agents économiques chargés de produire de la richesse, ça n'a rien, mais alors rien de naturel. On aurait pu vous parler de l'enlèvement du président Maduro au Venezuela. Alors on en pense ce qu'on en veut du Maduro, hein. Je ne veux pas m'apesantir là-dessus, mais plutôt sur le traitement. Le mot enlèvement est peu utilisé par les médias français qui préfèrent capture et même exfiltration. Une exfiltration étant le fait de sauver quelqu'un en l'emmenant ailleurs. Ce qui rend tout de suite l'action carrément bienveillante. Alors en fait, c'est un kidnapping. Oui, oui, c'est un kidnapping d'un président pas élu, ou élu, ou mal élu. Ou... Alors là, voilà, c'est un petit peu compliqué. Il apparaît que ceux qui ne l'aiment pas disent qu'il n'a pas été élu. D'autres disent, oui, bah, il n'y avait peut-être pas autant de fraude que ça. Pas beaucoup plus que dans d'autres pays, hein. Souvenons-nous de la Floride et de George Bush avec son petit frère. En fait, c'est un kidnapping, cette capture, ah, j'ai mis des gros guillemets, est justifiée par les accusations des autorités des États-Unis de narcoterrorisme. Oui, c'est nouveau, ça vient de sortir. Et ça sert à tout, ce qui est repris également en France. L'opération qui a permis l'enlèvement est même dépeinte comme indolore pour le Venezuela. Ainsi, lundi 5 janvier au matin, alors qu'on sait déjà que au moins les gardes du corps de Maduro ont été exécutés par les militaires états-uniens qui sont intervenus, que des bombardements ont atteint la capitale Caracas et même d'autres régions pour faire diversion. On pouvait entendre ça sur France Info.
Cette affaire, cette opération, elle rappelle aussi celle au Panama en 1989, Bruno Tertrais. Autre scénario rocambolesque, mais des centaines de morts à l'époque, alors que cette fois... zéro mort.
Oui, parce que la manière dont l'armée américaine opère aujourd'hui face à un pays comme le Venezuela est différente, plus moderne, plus efficace que c'était le cas en 1989.
C'est le problème des sites d'information en continu. Faut faire du continu. Alors, on entend tout et voir n'importe quoi. Alors, on a maintenant un bilan un peu plus précis donné par les autorités du Venezuela qui mentent autant que celles du Hamas. Je voudrais vous le rappeler. Oh, excusez-moi, je viens d'être contaminé par je ne sais pas trop quoi. Le zéro s'est transformé en 100. 100 morts et un nombre équivalent de blessés. Mais le 5 janvier, le service public d'information français joue les bons petits soldats de la propagande des États-Unis. Et pour cela, il y a des experts. On invite un certain Bruno Tertrais, politologue spécialisé du coin de la géopolitique, etc., habitué des plateaux télé et radio, et qui se prête au jeu de la frappe chirurgicale. Oui, c'est rien passé. À côté, là, tout est resté droit, correct, carré. Non, il n'y a pas eu de problème. Parce que les méthodes de kidnapping des États-Unis seraient maintenant devenues plus modernes, plus efficaces. On nous a déjà fait le coup avec la guerre du Golfe au début des années 90. On nous refait le coup régulièrement. Je rappelle qu'à Gaza, au Liban, etc., les Israéliens ne font que des frappes chirurgicales et que le Hamas ment. Maintenant, si les autres mentent aussi en face, ça devient plus compliqué d'avoir de l'information, surtout quand on empêche les journalistes d'aller sur le terrain et que l'on tue les journalistes qui sont sur le terrain. Eh bien, il affirme sans sourciller Bruno Tertrais qu'il n'y a pas eu de victimes. Zéro mort, la journaliste le dit, lui aussi. Alors qu'on sait déjà que les gardes du corps, qui étaient au nombre de 4, si mes informations sont exactes, ont été froidement exécutés. Bah, il fallait prendre le copain, donc pas les gardes du corps. On attend avec impatience la fameuse plateforme française de lutte contre les ingérences étrangères dans le monde numérique. Ça avait été promis par Emmanuel Macron au mois d'octobre. Bah, ça urge. On aurait pu vous parler du président du MEDEF qui est venu se faire voir en Sarthe mercredi 7 janvier, interviewé par le Maine Libre, Patrick Martin, c'est son nom à ce président du MEDEF, indique, je cite, « Le tableau est assez sombre. Il correspond à une réalité. Les chiffres de déficit, de dette, de croissance très molle sont inquiétants. » Et moi, je suis d'accord avec lui. C'est inquiétant de continuer à promouvoir le libéralisme économique alors que la compétition entre êtres humains ne permet pas d'assurer à tous le minimum vital. Des centaines de milliers de sans-abri, et il y en a même qui meurent toutes les semaines. « Oh, ça fait pas les gros titres, hein ?» Ben non. À la place, il y a sûrement autre chose à dire. Tiens, ben, par exemple, il y a un président qui a été exfiltré par les États-Unis. Tiens, on va faire que des heures là-dessus. Ça évitera de parler de ce qui concerne la population du coin. Plus d'un millier de morts au travail en 2024. Ouais, ça aussi, ça pose un problème. Une hausse constante du pourcentage de pauvres. Une hausse constante des inégalités en termes d'accès aux soins, à la nourriture, etc. Voilà un tableau très sombre du pays. Alors pourquoi réclamer encore plus de dérégulation et d'adaptation à la compétition, en l'occurrence de plus en plus de libéralisme ? Le Maine Libre n'a pas posé la question. Finalement, bah, on a préféré vous parler de toute autre chose. En l'occurrence, on a préféré continuer à vous parler des municipales.
Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas vivre là.
Que la commune n'est pas morte.
Que la commune n'est pas morte.
Une information tout d'abord pour pouvoir voter aux élections municipales. Et oui, il y a des gens qui donnent leur avis quand on leur demande, et il ferait mieux de donner leur avis aussi quand on leur demande pas. Eh bien, aux élections municipales qui se dérouleront les 15 et 22 mars 2026, avec peut-être des élections législatives, monsieur Lecornu nous a fait un petit coup là. Prépare ça, monsieur le ministre de l'Intérieur, parce qu'on ne sait jamais, mon gouvernement va peut-être sauter. En tout cas, vous avez jusqu'au 6 février pour aller vous inscrire à la mairie, place Saint-Pierre, ou à la mairie annexe place Saint-Martin. Il y a toujours cette liste en lice au Mans. Mais nous, on va vous parler de Angers. En octobre dernier, nous sommes allés à la rencontre de Noam Léandri à Angers. Mais qui est-ce ? Eh bien, devinez. Oui, vous saviez, il va se présenter tout seul.
Bonjour, moi, je suis Noam Léandri. Je suis un des cofondateurs de Angers Coopérative, c'est-à-dire que c'est une coopérative politique qu'on a créée sur Angers dans la perspective des élections municipales de mars 2026.
Pour en savoir plus sur cet économiste et dirigeant associatif, il a une page Wikipédia. Eh oui, il a écrit des bouquins et notamment le dernier qui est en lien avec ce dont on va parler s'intitule « Le pouvoir d'agir », un petit opuscule de 100 et quelques, d'à peine 100 pages qui est aux éditions Ozone au prix de 5 euros où il explique un petit peu quelle est la vocation de la coopérative mais aussi quelle est la vocation d'un citoyen en démocratie. C'est carrément dingue de devoir faire des livres pour le rappeler. Donc Noam Léandri est aussi le défenseur d'une idée, la coopérative politique. À Angers, devinez, elle s'appelle Angers Coopérative. Et pour en savoir plus sur cette idée, eh bien, nous écoutons Noam Léandri.
Qu'est-ce qu'une coopérative politique déjà ?
Alors c'est une invention, je dois le reconnaître, une coopérative politique ça n'existe pas jusqu'à présent. Il y a des coopératives marchandes, hein, de producteurs, de consommateurs, agricoles. Mais il n'y a pas de coopérative en champ politique, du point de vue de la loi. Et donc on a voulu créer, c'est innover, une innovation de l'économie sociale et solidaire, d'une certaine manière, en se disant, bah, puisqu'il y a des coopératives qui fonctionnent dans d'autres champs, pourquoi ça ne marcherait pas en politique et en cassant les codes et en faisant en sorte surtout bah, que les citoyens puissent se sentir plus à leur place. Aujourd'hui, il y a une grande défiance des citoyens vis-à-vis des partis politiques, notamment, quels qu'ils soient. Et donc l'idée, c'était de pouvoir donner une place plus importante aux citoyens. Et donc, vous savez, dans les coopératives, souvent dans les SCOB, dans les SKIC, qui sont les formes les plus répandues, eh bien, il y a des collèges. Par exemple, si je prends Biocoop, qui est une grande coopérative connue peut-être par vos auditeurs, eh bien, il y a un collège des consommateurs, un collège des producteurs, un collège des salariés. et chacun a un nombre de voix limité, ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir un qui impose son point de vue à l'autre. Le producteur, lui, voudrait avoir le prix le plus élevé, le consommateur avoir le prix le plus bas. Il faut trouver un équilibre entre les deux concrètement, et le salarié, il a envie d'être payé aussi, donc il faut qu'il y ait une marge entre les deux. Et donc c'est à cet équilibre-là qu'on trouve dans le champ marchand, pourquoi on n'arriverait pas à le faire dans le champ politique. Et donc les citoyens pourraient avoir leur collège, les partis à un autre collège, les associations d'un autre collège, et c'est comme ça qu'on s'est fabriqué, constitué.
En septembre 2024, Noam Léandri et Hubert Launoy, étudiants à Sciences Po, Paris, ont produit un texte de 12 pages pour expliquer le concept et voir comment il pourrait s'inscrire dans nos démocraties représentatives. Le document s'intitule « La coopérative politique, un second souffle pour la social-démocratie ». Cette manie de toujours ajouter un adjectif à la démocratie, comme si le mot démocratie ne se suffisait pas à lui-même. Bon, il est disponible sur le site de la Fondation Jean Jaurès, ce document, créé en 1992 par Pierre Mauroy du Parti Socialiste, un parti dont la fondation est restée très proche, et donc proche de La République En Marche après 2017, puisqu'une partie de La République En Marche est venue du PS. Une fondation du centre, donc, qui penche un petit peu à gauche pour résumer. On n'est pas chez les révolutionnaires. L'idée a cela d'intéressante, d'une coopérative politique, puisqu'elle permet de donner une place aux habitants à travers les différents collèges, et que la démarche politique ne doit pas donc être phagocytée par les partis. Quelle est donc la genèse de Angers Coopérative, l'association à laquelle appartient Noam Léandri? C'est à lui.
Quand a commencé cette aventure, cette création?
Alors, on a officiellement lancé la Angers Coopérative en septembre 2024. L'idée, c'était que d'ici à l'été 2025, c'est-à-dire 6 mois avant les élections municipales, on ait un projet, une vision de ce qu'on veut faire de notre ville, nous, citoyens, mais avec les associations, les habitants, les partis politiques, etc. Mais en réalité, on ne s'est pas lancé comme ça en un jour, on ne s'est pas réveillé un matin et on a fait venir 100 personnes dans une salle. Évidemment, ça a été le fruit de plusieurs mois de réflexion, de travail. Et donc en fait, ça s'est fait de façon très sympathique. Je crois que c'est quand même aussi la convivialité qui fait en général le fait qu'on se serre les coudes. Et donc on a fait des apéros, on a discuté, on s'est rencontrés. Moi, j'ai bien aimé mélanger des personnes de divers horizons. On a vraiment mélangé plein de points de vue, plein de choses pour essayer de construire et commencer à créer aussi une communauté, voilà, qui a dit « tiens, on a envie de faire changer les choses ». Donc ça s'est fait petit à petit, et à force, on s'est dit « comment est-ce qu'on aboutit à ce projet? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de faire changer les choses ?» Parce qu'on avait le sentiment que les partis politiques locaux, l'opposition, n'étaient pas en capacité de proposer vraiment une alternative, et donc on a voulu prendre les devants et créer par nous-mêmes.
Vous parlez d'une création officielle en septembre 2024. Et par contre, comme vous le dites, ça ne s'est pas fait en une seule journée. Alors comment ça commence véritablement?
Comme je le disais, la mayonnaise, elle prend à travers la convivialité. Alors on a beaucoup auditionné d'autres listes citoyennes, d'autres mouvements citoyens qui s'étaient créés dans d'autres villes. On a échangé avec Léonore Monconduit à Poitiers pour qu'elle nous explique comment ça s'est fait à Poitiers. Elle nous a transmis toute la documentation parce qu'ils ont bien documenté finalement la démarche qu'ils avaient faite. On a échangé aussi avec Olivia Fortin à Marseille, qui est à l'origine du printemps marseillais, avec le mouvement Man Mars. Donc pareil, elle a écrit une note à la Fondation Jean Jaurès qui explique la technique de discussion politique autour d'un poulet. Voilà. Et donc c'était aussi pareil, cette démarche de convivialité qu'on a voulu reproduire. On a échangé avec Toulouse aussi, puisque ils ont aussi un peu copié ils étaient avant nous, parce qu'ils avaient déjà commencé avec l'archipel citoyen à avoir un mouvement déjà en 2020, et là ils ont repris l'idée de coopérative politique aussi qu'on a lancé avant eux. Moi, de mon côté, j'avais déjà eu des relations parce que j'avais mené une campagne comme société civile sur une liste aux élections régionales avec Mathieu Orphelin qui était candidat écolo, et donc j'avais déjà noué des relations avec beaucoup d'acteurs politiques locaux, et je leur avais proposé ce modèle aussi de coopérative politique où chacun pourrait garder sa place. Les partis politiques, les citoyens, qu'on ait une forme d'égalité des voix. Ce que je constate, c'est qu'finalement, ils ont copié ce modèle, les partis politiques, en créant un autre objet à côté qui s'appelle Demain Angers, où il y a effectivement un panel de citoyens, mais il y a une majorité quand même de politiques, puisqu'il y a 3 collèges, un collège des élus sortants, un collège des partis politiques et un collège des citoyens. Alors que nous, on voulait qu'il ne puisse pas y avoir une majorité, soit des partis politiques ou des élus, et donc on voulait qu'un des groupes ne puisse pas posséder plus de 50% des voix, et que ça force à une forme d'équilibre. Et donc c'est vrai qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui n'est pas tout à fait celle qu'on avait imaginée, mais voilà, dans laquelle on essaye de contribuer et de continuer à apporter nos valeurs.
Un groupement, donc, demain à Angers, dont nous reparlerons. Alors, comment on fait pour essayer de mettre en œuvre le genre d'association dont nous parle Noam Léandri, c'est-à-dire une coopérative politique? Eh bien, du réseau local. On connaît tous un militant de ceci, un bénévole de cela, avec qui on discute du temps qu'il fait, et surtout de la société, comme elle va ou pas. De ce petit groupe peut naître alors une volonté de prise du pouvoir. Ah ben ça, c'est La République En Marche, par exemple. Mais aussi la volonté d'une action démocratique. Ah ben, c'est tout à fait autre chose. Et puis, allez voir ceux qui ont déjà défriché le terrain. Noam Léandri nous a parlé du cas de Poitiers, une ville remportée par une liste citoyenne et participative en 2020, de Toulouse et des membres de l'archipel citoyen qui ont fait le boulot en 2020, n'ont pas été élus, et de Mad Mars à Marseille avec Olivia Fortin. En août 2020, après la victoire de la liste d'Union, le printemps marseillais, au municipal, sur le site de la Fondation Jean Jaurès, décidément, on n'arrêtera pas d'en parler pendant cette émission, Olivia Fortin est revenue sur l'histoire de cette victoire électorale. Elle nous dit par exemple, page 12 du document, en bref, le rôle de Mad Mars. Voilà ce qu'il était. Depuis sa fondation, Mad Mars a été une instance de rencontre, de connexion, de structuration de la société civile. Une instance d'implication pour ceux qui ne se retrouvent pas dans les organisations politiques telles qu'elles existent aujourd'hui. Une instance d'émergence de profils et d'ascension vers des candidatures aux élections ou à des postes en cabinet. Un vivier de compétences et de solutions bénévoles pour lancer la campagne du printemps marseillais alors que nous n'avions pas de moyens. Eh bien, pour faire tout ça, puisque ça n'a pas été si facile de faire converger des opinions souvent similaires mais portées par des égos de candidats, Olivia Fortin propose de réaliser la grande union des progressistes dont nous rêvions. Je cite de nouveau le document. Nous avions besoin de réunir des responsables politiques et de fédérer la société civile éparse souhaitant s'impliquer dans le champ politique. Donc, je continue. Après avoir rencontré individuellement les responsables politiques avec lesquels nous souhaitions travailler, inspirés par le film Le Festin de Babette, nous avons organisé, sur une période assez large, nos fameux dîners poulets. Le principe, un poulet rôti, des patates, une bouteille de rouge, tout le monde autour de la table pour créer du commun autour d'un bon repas. Ces dîners auront été l'occasion d'aborder cette idée d'union dans des configurations variables, en permettant à chaque fois aux convives de se rencontrer d'une façon informelle et chaleureuse. L'objectif de ces dîners était de mettre en avant les points de convergence et de valoriser l'envie commune de monter un projet ensemble. Se sont rencontrés à cette occasion des responsables politiques qui ne se parlaient pas et des acteurs de la société civile. Donc elle relate ensuite toutes les difficultés à entretenir des relations entre les groupes politiques qui arrivent chacun avec leur agenda, mais aussi la pression populaire qui peut aplanir les différends du fait de l'envie d'être élu des membres des partis. Elle appelle ça la poulétique. Cette poulétique rappelle les discussions autour d'une soupe durant le mouvement contre une énième réforme du système de retraite initiée par des libéraux de droite au pouvoir, c'était en 2003. La préparation et la dégustation de cette soupe avaient lieu au Chapiteau Vive, un chapiteau monté par les intermittents du spectacle en lutte sur l'île aux planches. Ces moments nous rappellent qu'en démocratie, les tâches les plus quotidiennes, comme éplucher des légumes pour faire de la soupe, peuvent être imprégnées de politique. Pour Noam Léandri, la poulétique passe par la convivialité. On l'écoute à nouveau.
Vous avez dit « on » plusieurs fois. Mmh. C'est qui ce « on » ?
C'est les fondateurs. On était une dizaine en septembre à se présenter officiellement, à sortir du bois d'une certaine manière. Aujourd'hui, on a créé une direction collégiale. C'est plus seulement les fondateurs, mais maintenant, c'est tous ceux qui ont envie de s'investir dans la vie de la coopérative. On est 16 dans la direction collégiale où il n'y a pas de chef. Donc voilà, c'est une forme associative, loi 1901, qui est autorisée, mais qui respecte les valeurs de la coopérative qu'on a voulu aussi garder, conserver. Et donc, il y a des personnes qui sont des responsables associatifs, mais qui sont là en leur nom propre, hein, pas là pour représenter leur association ou leur entreprise, mais il y a aussi des chefs d'entreprise. Enfin, voilà. Et donc, on a vraiment une diversité de profils qui nous est chère. Chacun apporte, en fait, sa connaissance du terrain, de différents quartiers, etc. Enfin, on essaye d'être le plus représentatif de l'ensemble de la population. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément toujours dans les partis politiques. Et donc cette agrégation, en fait, au début, elle n'était pas évidente, mais il y a une forme de convivialité, d'amitié qui s'est nouée entre nous. Et donc oui, le « on », ben, c'était au départ des rencontres. J'avoue que j'ai un peu œuvré à faire rencontrer des personnes qui ne se connaissaient pas, qui ne se seraient probablement jamais croisées sur Angers. Et j'ai réussi à les réunir et à faire en sorte que cette mayonnaise prenne, je pense que j'insiste beaucoup sur la convivialité. Chaque fois qu'on se voit, tous les mois, parce qu'on avait une plénière tous les mois, donc ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir, on faisait une publicité sur les réseaux sociaux ou sur les panneaux d'affichage libre à Angers. Et donc on donne une date tous les mois de réunion et tout le monde peut venir. Et à chaque fois on commence par un apéritif. Il y a le petit quart d'heure en juin, comme ça se pratique ailleurs, j'imagine au moment aussi. Au lieu de rien faire, on débouche une bouteille de jus de fruits ou de bière, on a un petit peu de chips et puis voilà, on discute, on papote. Donc on commence par ça, ça fait un temps d'accueil sympathique. Le soir, tout le monde prend sur soi de ne pas rentrer chez lui pour pouvoir parler de la ville et de ce qu'on voudrait y faire. Donc voilà, il faut aussi que ça soit sympathique. Et on finit aussi par un apéritif, voilà, donc l'idée c'est que ça, on reste toujours dans la convivialité, dans l'amitié, et donc on a tous ces petits temps sympathiques qui font que la politique c'est pas forcément quelque chose de chiant, quoi. Moi, pour avoir assisté à des réunions politiques, il n'y a pas un qui pense à prendre un truc à boire ou à manger. Et on meurt de faim de 19h jusqu'à 22h parfois. On a voulu faire quelque chose de assez différent qui donne vraiment envie. Parce que se retrouver dans une salle municipale à écouter des discours ou des grandes logorées, plus personne n'en a vraiment envie. Sauf avoir vraiment des gens exceptionnels qui prennent la parole, mais ça devient quand même de plus en plus rare, y compris à l'Assemblée nationale. Hein. Donc, tant qu'à faire, autant que ça soit sympa.
Bah oui, autant que ça soit sympa de faire de la politique, puisque normalement, ça devrait être le quotidien des citoyens, des habitants dans une démocratie. Bon, ça ne l'est pas parce que nous, on est dans une démocratie représentative, hein, donc du coup, c'est un petit peu récupéré par des gens qui nous la jouent. Hop, 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 non, c'est trop compliqué pour toi. Heureusement, tu as du bol, je suis un expert. Alors, une fois le groupe de base constitué, il faut se coller à la tâche qui est, rappelons-le, de donner la parole à la population. Bon. Je le disais, un comble en démocratie, puisque ça devrait être la base de l'action de nos soi-disant représentants de nous donner la parole. Alors, comment ont-ils fait? Eh bien, nous verrons ça la prochaine fois.
Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas vivre là.
Que la commune n'est pas morte.
Que la commune n'est pas morte.
Alors que vous dire? Eh bien que samedi 10 janvier, manifestation de soutien à la population palestinienne et à tous ceux qui subissent les agressions d'armées d'occupation dans le monde et en particulier de l'armée israélienne au Moyen-Orient. C'est à 14h, place de la République, et dans le même cadre, le jeudi 15 janvier à 20h15 au cinéma Les Cinéastes, 42 place des Comtes du Maine, vous pourrez voir à l'invitation de l'AFPS, l'association France-Palestine Solidarité, un film qui s'intitule Palestine 36 et qui nous rappelle à travers 5 histoires entrelacées la grande révolte arabe contre la domination coloniale britannique. Ça se passait en 1936. Il y aura un débat à la suite qui permettra d'apporter un éclairage historique sur l'actuel conflit dont les causes sont bien antérieures au 7 octobre 2023. Vendredi 16, à ne pas louper, vendredi 16 janvier, les Amis de l'Humanité. Alors l'Humanité, c'est le journal. Mais c'est aussi l'humanité tout court. Avec la CGT, la FSU, eh bien vous propose à la salle Jean Carmé à Allonne, dès 19h, une rencontre avec Monique Pinson-Charlot, sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS, qui vient de publier un livre intitulé « Les riches contre la planète, violence oligarchique et chaos climatique ». Ça fait suite à ce dont nous vous avions parlé avec Hervé Kempf pour les riches qui détruisent la planète. Et de fait, Monique Pinson-Charlot, elle s'y connaît un petit peu en riche puisqu'elle travaille depuis la fin du XXe siècle sur le sujet. En tant que sociologue, elle les a étudiés en long, en large et en travers. Ça se passe donc à la salle Jean Carmé à Allonne le vendredi 16 janvier à 20h pour Monique Pinson-Charlot, mais dès 19h, vente du livre Buvette et Tartine, c'est à l'invitation de la CGT, de la FSU et des Amis de l'Humanité. À partir du vendredi 16 et du vendredi 16 janvier, je vais y arriver, jusqu'au 7 février à Mamers, en particulier, mais aussi à la Ferté-Bernard à Montval, oui, c'est la Charte sur le Loir qui a changé de nom il y a quelques années, le festival Regard sur le monde rural. Pour en savoir plus sur cet objet médiatique du moment, à savoir le paysan souvent transformé en exploitant agricole, vous voulez en savoir plus? Eh bien, allez voir sur sarthe.demosphere.net, où là vous avez tout le programme. Et puis si vous voulez en savoir plus aussi sur l'actualité du coin et sur le réseau Mutu, qui est très intéressant ce réseau Mutu pour avoir d'autres informations que celles de Google Info, et bien allez voir sur l'arnapé avec deux à la fin, .info, l-a-r-n-a-p-e-e.info. On aurait pu vous parler de Brest, on aurait pu vous parler de Saint-Étienne où il se passe des festivals antifa. Ouais, parce qu'il faut lutter un petit peu contre le fascisme, parce que sinon il va nous tomber dessus. Alors pour tous ceux qui disent oui, les antifascistes sont les nouveaux fascistes, essayez de voir ce qu'il y a derrière. Comment faire pour éviter que les fascistes ne soient reconnus en tant que tels ? Eh bien, vous détournez le regard en faisant croire que ce sont leurs ennemis qui sont les fascistes. Ah, c'est trop facile, et pourtant ça a l'air de marcher. En attendant de se retrouver ici ou ailleurs, je sais pas moi, à Alonne la semaine prochaine par exemple, je vous dis tout simplement allez, au revoir.